L'économie israélienne se porte très bien, si l'on en croit un certain nombre de rapports qui ont été publiés dernièrement. Évidemment, je le disais il y a deux minutes, tout le monde s'étonne en se disant « Mais attendez, guerre avec l'Iran qui détruit des immeubles entiers, des soldats qu'il faut payer, c'est très surprenant. » Nous sommes en ligne avec Daniel Rouache qui dirige un site de référence, le site Israel Valley, référence dans le domaine de l'économie israélienne. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir.
Alors Daniel, je disais que l'économie israélienne est très forte, avec des résultats qui peuvent s'expliquer par exemple par ses performances militaires qui font que de très nombreux pays disent « ben moi je veux le dôme de fer » par exemple. Et donc les ventes ont explosé, mais est-ce que vous nous confirmez que contre toutes les prévisions, l'économie israélienne est aujourd'hui en état de force ?
Oui, effectivement, l'économie d'Israël s'en sort très bien, vraiment. C'est quelque chose de tout à fait inespéré. Comme vous le dites, Bernard Avoif, le secteur de la défense obtient des résultats quasi extraordinaires, des profits énormes. Elbit, IAI, Raphaël, avec des commandes pour les trois prochaines années qui sont réelles. Et ce qu'on peut dire vraiment, c'est que la stratégie d'Israël d'avoir misé sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle porte ses fruits. Et vous savez, il y a des fois des symboles qui sont incontournables. C'est le symbole de l'entreprise Nvidia qui vient de prendre une décision. Ça a marqué le monde entier. Nvidia investit massivement en Israël, prévoyant un campus technologique de plus de milliards de dollars, notamment dans le nord du pays. Et là, ils ont fait fort. Ils s'installent, vous savez, pas très loin de la frontière libanaise à Yorknéa, et ils vont construire également un centre de données de recherche et d'ingénierie. Donc c'est là un symbole majeur, parce que Nvidia, c'est l'une des plus grosses entreprises mondiales, c'est un investissement énorme et qui va réconforter tous ceux qui pensent qu'Israël vraiment a un bel avenir. Les résultats sont bons, le PIB par habitant d'Israël est tout à fait correct, plus élevé que la France, il est de 54 000 dollars par an. La dette publique affiche 69% de son PIB, ce qui n'est pas mauvais. Un chômage très bas, 3,7%. Et ce qu'on peut dire vraiment, Israël, malgré le temps de guerre, continue à investir en éducation, recherche et innovation. C'est assez étonnant. Si on cherche également des belles choses sur Israël sur le plan économique. Très récemment, Israël a lancé des satellites. Dans le domaine de médecine et technologie, ça va très bien. Le secteur des biotechnologies. Alors effectivement, il y a toujours des problèmes, il ne faut pas les cacher.
Parce alors que voilà, j'ai failli vous interrompre, Daniel, parce que j'ai dit, attendez, on ne peut pas présenter un rapport. Tant mieux si les choses vont bien et si les gens ont du travail. Mais on imagine bien que, par exemple, tous ces Israéliens qui font la guerre ne sont pas au travail. Moi, j'ai vu personnellement, à nouveau, c'est pas mon domaine d'expertise, contrairement à vous. Donc, je parle de manière empirique, comme un journaliste qui parle aux gens. Mais j'imagine bien que tous ces gens qui m'ont dit à moi, j'étais obligé de fermer mon business, j'ai personne pour tenir la boutique, je paye des employés qui ne viennent pas. On imagine bien quand même qu'il y a des problèmes.
Alors, attendez, réfléchissons. Vous allez sur la rue Allenby, moi-même, j'ai compté le nombre de magasins, parce que c'est une rue que je connais comme ma poche, j'y vais tous les jours. Le nombre de restaurants qui ont fermé, le nombre de magasins, le nombre d'épiceries, etc., est colossal. Mais il faut voir Israël globalement. C'est vrai que tous ceux qui sont à l'armée, d'abord, touchent des salaires, parce que les salaires...
Mais il faut bien les payer. Justement, vous allez dans mon sens.
C'est la victoire là omis. Je n'ai pas dit que vous avez tort. Ce que je suis juste en train de dire, c'est une chose qui est très simple, c'est que quand on voit Israël globalement par rapport à ses résultats pour un pays en pleine guerre, c'est quand même absolument incroyable. C'est-à-dire que le high-tech israélien, certains secteurs marchent très bien, d'autres secteurs sont pratiquement à l'arrêt. Tout le monde sait que dans le domaine du tourisme, il n'y a plus de business, c'est-à-dire tout s'est écroulé. Mais actuellement, on est en train de regarder attentivement ce qui est en train de se passer. Et la croissance va revenir. On estime qu'en 2025, ça sera de 2,4%, ce qui n'est pas mauvais. C'est l'OCDE qui le dit. La Banque d'Israël a fait des estimations sur le coût de la guerre. C'est 62 milliards d'euros. C'est colossal entre 2023 et 2025, on a multiplié par deux de 4,5% à 9% des dépenses du produit intérieur brut israélien. Donc il y a une croissance énorme. Donc il faut bien trouver des poches qui permettent à Israël de s'en sortir. Il y a eu des aides qui viennent des États-Unis en ce qui concerne l'armement et autres. Il y a eu beaucoup de donations qui ont été faites en Israël pour les universités. Si vous prenez l'université Ben-Gurion du Negev, ils encaissent 10 millions de dollars de donations nettes. Le Ternion à Haïfa ne fait pas moins bien 10 millions de dollars. L'université de Tel Aviv également des millions de dollars. Donc globalement, on est dans une situation où on a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ont perdu leur travail, qui essaient de s'en sortir, qui changent complètement de mode de fonctionnement. Il y a eu plus de 60 000 à 70 000 personnes qui ont quitté Israël, qui travaillent en dehors du pays et qui encaissent des salaires en dehors du pays, mais qui reversent l'argent très souvent en Israël pour payer leurs frais, développer leur entreprise et autres. On est sur une économie spéciale. Les start-up continuent à ouvrir, mais elles s'établissent principalement aux États-Unis et elles vont rebasculer sur Israël d'ici un an, deux ans, quand la situation va s'améliorer. Donc les chiffres purs et durs sont bons. La réalité, c'est pour ça que je n'achète pas facilement le fait que Israël ait des résultats extraordinaires en matière de bonheur national. C'est vrai, c'est faux, ça a été vrai pendant un certain temps. Les Israéliens ont l'habitude de répondre très positivement quand on leur demande si tout va bien. Dans la réalité, les choses sont vraiment très délicates. Mais globalement, on ne peut pas dire que le rêve du Hamas et des ennemis d'Israël, ce serait l'écroulement de l'économie israélienne. Ça ne se réalise pas. Le BDS le voit toutes les semaines, des chiffres qui sont absolument incroyable. Donc ça veut dire que globalement, le pays a des appuis incontournables dans le monde. Vous savez, quand Bernard-Henri Lévy dit qu'Israël est seul, c'est faux. Je vois des Américains arriver ici discrètement, investir, qu'ils soient juifs ou non juifs. Vous avez des pays qui investissent en Israël, comme le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la Roumanie et autres. J'ai rencontré récemment, c'était la semaine dernière, le prochain ambassadeur de Thaïlande en Israël. Il me disait des choses quand même assez extraordinaires sur l'avenir entre Israël et la Thaïlande. On ne s'attend pas à ce que la Thaïlande, qui a déjà 40 000 travailleurs ici, va doubler le nombre de travailleurs en Israël et va investir avec des Israéliens. Donc on est en tous les cas sur un vent favorable. Avec la France, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Les Français continuent à investir à travers des filiales étrangères d'entreprises françaises qui sont établies dans le monde entier, qu'ils soient en France, en Italie, en Espagne ou ailleurs. Mais globalement, vous allez voir, à la fin de l'année, on ne va pas trouver une chute brutale des relations France-Israël. La coopération continue.
Alors, une dernière question, Daniel Rouage, sur le tourisme. J'imagine que, d'abord déjà, il n'y a pas de compagnie aérienne. Et c'est le président Herzog qui disait, vraiment pour une économie, il faut un retour normal au trafic aérien. C'est Herzog qui disait ça. Mais au niveau du tourisme, qui est quand même un point très important de l'industrie israélienne, ça fait travailler des milliers de gens. Le restaurant du coin, les gens qui font le nettoyage dans les hôtels. À part les juifs, juste, vraiment, c'est ma dernière question. Je peux juste finir ma phrase. À part les juifs, il y a encore des gens qui viennent à Israël, je ne pense pas.
Écoutez, moi je parle de ce que je vois. Ouais. Nous avons plus de 15 compagnies internationales qui sont implantées actuellement en Israël, qui ont repris leurs activités, ne serait-ce que Air France qui vient de reprendre. On a des grandes compagnies qui sont d'Europe centrale, Europe de l'Est, et également d'Allemagne et d'autres pays qui sont revenus ici en Israël. Les Israéliens ont de moins en moins de difficultés pour trouver des places dans des avions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le groupe El Al a fait un effort qui est absolument considérable, des prix élevés, mais une réalité, on peut voyager, on peut partir d'Israël après les derniers événements qu'il y a eu avec l'Iran. Les choses sont revenues à peu près normalement. L'aéroport, le terminal 3 marche à fond et vous avez le terminal 1 qui est en train d'ouvrir, en train de faire les derniers ajustements. On est sur une position qui est quand même assez favorable. Alors c'est vrai que ce sont les Juifs qui sont très 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 militants et qui continuent à coopérer avec Israël de manière extrêmement étroite. On a des investisseurs, mais si vous regardez les plus gros investisseurs mondiaux, les plus grands groupes, qu'ils soient allemands, américains ou autres, ce ne sont pas des juifs qui sont aux commandes, bon, on passe des investissements. Si on investit en Israël, c'est parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des experts en software, il y a de l'intelligence artificielle qui est disponible. Donc, on investit parce qu'il y a une véritable capacité. Vous savez, quand Renault décide d'ouvrir un laboratoire de recherche et développement, ils l'ont fait il y a quelques années, mais ils n'ont pas fermé les portes. Ils sont toujours ici en Israël. Et ceux qui ont pris les décisions, ce n'étaient pas des sionistes, ce n'étaient pas des juifs, c'est des gens qui pensaient à leur intérêt, parce qu'Israël est devenu une force de frappe, par exemple, dans le domaine des technologies du secteur automobile. Donc c'est là la chance d'Israël.
C'est son cerveau, comme d'habitude.
Sur les industries mondiales qui sont en croissance et dans lesquelles tout le monde a besoin.
Tant mieux. Daniel Rouage, je rappelle que vous êtes le directeur d'Israel Valley, qui est un site internet de référence en économie israélienne, et d'ailleurs y compris dans les rapports économiques entre la France et Israël. Et je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Chalin. Bonsoir à vous.
Merci Bernard.